on dirait des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Baptiste Antoine,
Guillaume Buffet.
Bonjour, bonsoir. Un petit garçon qui pose sur la plage à côté d'une sculpture en sable. Un cow-boy qui galope dans une plaine de l'Utah. Des photos d'époque et surtout des planches de BD inédites ou célèbres, des cases originales de bandes dessinées en noir et blanc ou en couleur, sur lesquelles on reconnaît ces deux héros fétiches. Vous l'avez compris, c'est l'un des grands maîtres du dessin et de la narration qui est avec nous aujourd'hui, Jean-Claude Mézières, le père avec Pierre Christin de Valérian et Laureline, un inventeur de monde pour l'album et pour l'écran avec le cinéaste Luc Besson pour Valérian, mais aussi pour le film Le Cinquième Élément. Figurez-vous que le célèbre taxi volant de Bruce Willis, alias Corbin Dallas, eh bien c'était son idée. Volons donc avec lui pour découvrir et redécouvrir son parcours et son univers à travers le beau livre, l'artbook que publient les éditions d'Argo. Il s'appelle tout simplement « L'art de Mézières » et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Jean-Claude Mézières.
Bonjour.
Il y a beaucoup de dessins étonnants dans cet artbook, mais pour moi le plus étonnant peut-être se trouve à la page 23. C'est une page détachée d'un carnet à dessins, on voit encore la marque des spirales. Voilà. Et on y reconnaît Tintin. Alors jusque-là, c'est classique, oui. Sauf que Tintin, il est sur une plage, il est en Californie, hein, c'est indiqué,
absolument.
Vous l'avez écrit à côté du dessin, il est avec Milou, mais alors, il a des pectoraux et des biceps absolument impressionnants.
Et je ne connaissais pas le nom des autres muscles. Non, c'est-à-dire que j'étais un lecteur, évidemment, de Tintin, quand j'avais quand même 12 ans, comme vous dire que j'avais 12 ans quand je
dessinais. Parce qu'il y a la date du dessin, hein, 1952.
Oui.
Voilà.
Mais, je l'avais dessiné comme je pouvais l'imiter proprement de faire comme Hergé le dessinait. Mais effectivement, il y avait un autre caractère de personnage qui me plaisait beaucoup. C'était Harris Buck dans le journal OK Magazine, qui était dessiné par un très jeune dessinateur qui devait avoir 17, 18 ans, 20 ans, peut-être, j'en sais rien, et qui s'appelait Albert Uderzo. Et ça, c'était un dessin qui, avec une histoire de dragon, de princesse évanouie, et de type qui était un costaud. Et donc, ça me plaisait bien. J'ai dessiné mon Tintin avec les muscles d'Harris Buck.
Donc une sorte d'être hybride, déjà, Jean-Claude Mézières. Mais est-ce à dire que votre premier héros de bande dessinée, c'était précisément Tintin? J'ai lu que le Lotus Bleu, en particulier, cet album-là, avait été un moment fort pour vous.
Oui, mais disons que c'est un fait important, parce que c'est ma marraine qui a dû me l'acheter pour mes 10 ans, quelque chose comme ça, avec le fait que à l'époque on avait très peu de journaux. Il y avait, enfin, des petits journaux, magazines hebdomadaires, si, mais autrement les albums c'était un luxe. Ça coûtait cher, je ne peux pas dire combien maintenant, mais ça coûtait vraiment assez cher. Et donc c'était pour les événements exceptionnels et c'était vraiment une chance. J'ai eu pendant trois albums de Tintin. Et puis, les collections se sont popularisées.
Mais qu'est-ce qui vous a intéressé, justement, quand vous avez découvert Tintin?
Il y avait le fait que je dessinais. Je viens d'une famille de dessinateurs. Mon frère aîné, qui avait 7 ans de plus que moi, dessinait des petites BD, déjà. On disait pas des BD, bien sûr, la bande dessinée n'existait pas. Mais c'était des illustrés. Et je prenais des fois la suite de ces histoires, et je continuais très malhabilement, mais avec des choses qui étaient presque imprimables. Et donc tout ça, c'était mes parents, qui n'étaient pas du tout des artistes, mais avaient incontestablement un regard très favorable sur le dessin, la peinture, etc., et encourageaient... modestement.
Oui. Et donc, vous mettez à acheter de temps à autre le journal Tintin. Et un jour, un de vos copains, un certain Jean-Paul Goude, qui allait aussi avoir, comme vous, une sacrée dessinée, vous prête un Spirou. Et alors là, deuxième choc, parce qu'on ne se rend pas forcément compte aujourd'hui, mais à l'époque, il y avait le clan des Spirou et le clan des Tintins. Quoi.
Oui,
c'est deux écoles complètement
ça,
différentes.
Mais il y avait surtout aussi des habitudes de lecture qui étaient que ce n'était pas un Spirou, c'était une pile comme ça d'hebdomadaires de Spirou. Et je découvre Franquin, parce que, évidemment, pour moi, c'était l'icône absolue de ma deuxième évolution, c'est de Tintin, je suis passé par un amateur de Franquin.
Donc vous passez dans le camp d'en face, quoi. Vous quittez Moulinsart pour Marcinelle.
Oui, enfin, vous savez, à l'époque, on avait d'abord la Belgique, c'était loin. Oui. Il fallait. J'ai été voir Franquin. Quelques années plus tard, mais encore dans les 17 ans, 18 ans, et il fallait passer la frontière. On passait pas en Belgique comme ça.
C'était une expédition.
Et c'était impressionnant. Et surtout, donc ça veut dire que tout ça, c'était réparti. On savait pas qui dessinait ça. On n'avait évidemment pas de télévision pour pouvoir être au courant de tout ça. Donc, c'était des miracles. Le dessin, c'était formidable. Et ça coûtait pas cher. C'était accessible à n'importe qui. Une feuille de papier, une bouteille donc de Chine. On se ne ruinait pas. Et, quand on avait la chance de le faire. Et c'était très mal vu. Parce qu'attention, les écoles, ils aimaient pas la bande dessinée. Ah, lorsqu'un directeur vous prenait avec un illustré dans votre cartable, on était emmené au bureau du directeur et le directeur vous le déchirait devant les yeux et le piétinait.
Oui, on est effectivement très très loin de la reconnaissance de la bande dessinée d'aujourd'hui, qui est quand même finalement assez récente. Hein.
C'est tout ça, c'est une évolution qui a accompagné peut-être ma carrière, principalement parce que j'ai travaillé avec Goscinny et que Goscinny a fait énormément pour la cause de la bande dessinée.
C'est le moins qu'on puisse dire. Notamment à travers Pilote, hein, pas avec seulement Pilote avec,
tout ça,
avec
mais
Astérix.
Qu'est-ce qu'on fait comme dessinateur? Qu'est-ce que vous faites vraiment dans la vie? Vous gagnez d'argent en faisant des petits Mickey?
Personne n'y croyait.
Ah non, personne n'y croyait.
Alors, Franquin, Hergé, et donc le journal Tintin, et donc Spirou. Et parmi les aventures de Spirou, signées Franquin justement et Jigé, il y en a une qui s'appelle Les Chapeaux Noirs.
Oui.
Alors Les Chapeaux Noirs, c'est un peu à la recherche des cow-boys perdus. Hein.
Ouais,
et ça vous éclate, Jean-Claude Mézières, parce que le rêve américain, le rêve du cow-boy, c'était le vôtre.
Vous savez, quand on est né juste avant la guerre et qu'on est à 5-6 ans à la sortie de la guerre... Les Américains avaient forcément un poids dans les goûts au cinéma, les choses, les premiers films en couleur, le bal des sirènes, etc. C'était des choses assez formidables à voir. Et les premiers westerns, évidemment, pour moi, les cavaliers dans le désert, c'était des images qui m'ont fait rêver toute ma jeunesse. Jusqu'au jour où j'ai décidé d'aller les voir.
Voilà. Bon, mais vous attendez. N'allons pas trop vite, parce qu'il a fallu attendre quand même avant de franchir l'Atlantique. En attendant, vous dessinez quand même. Vous avez 15 ans, vous écrivez une histoire intitulée La Grande Poursuite, qui est inspirée justement par les Chapeaux Noirs. Et alors là, c'est extraordinaire parce que votre papa, eh bien, il relie les planches et il les envoie par la poste à Hergé, et Hergé vous répond, il y a la lettre dans le livre. Vous l'avez encadré, cette lettre, Jean-Claude Mézières?
Non, je ne l'ai pas encadré, mais je l'ai gardée.
Oui, parce que recevoir un message de la main d'Hergé, c'est pas mal.
C'est surtout aussi que c'est mes parents qui avaient gardé ça. Ouais, parce que moi, je suis pas très ordonné, et puis je suis pas encore près des souvenirs comme ça. Mais la lettre avait été mise dans le repliée dans son enveloppe que j'ai toujours aussi, et c'est la seule fois où j'étais en contact avec Hergé, puisque je ne l'ai jamais rencontré professionnellement.
Bon, il publie pas, mais il vous encourage. Hein, petit, tu as des progrès à faire, mais n'abandonne pas.
Alors moi, j'ai été très déçu. J'ai dit, mais le salaud, il m'a pas édité. Parce que pour moi, Hergé, c'était Monsieur Casterman. Tout ça, c'était la même sauce, quoi.
Ouais.
Et donc, parce que j'étais persuadé qu'il allait m'éditer. Alors, j'étais furieux, mais quand même, en relisant un peu, j'ai vu que c'était pas tout à fait au point.
Bon, quand même, avec un petit peu de recul. En tout cas, vous avez compris très tôt, hein, Jean-Claude Mézières, que le dessin serait votre métier. Donc, vous disiez que vous aviez un frère aussi qui dessinait. Et on vous découvre aussi dans l'album, eh bien, que pendant les vacances, vous aviez pris l'habitude de sculpter des animaux dans le sable des plages bretonnes à Perros-Guirec.
Oui.
Vous auriez pu être sculpteur?
Je ne le crois pas parce que j'ai jamais essayé de sculpter autre chose. Et pourtant, quand j'ai fait une école d'art, après, où on faisait un peu des trucs en terre glaise. Mais non, ce qui était merveilleux, c'était de partir avec une innocence absolue, faire un tas de sable, et puis de commencer à tailler dedans. Et en plus, je dis, est-ce que c'est la meilleure qualité que le sable avant les marées noires et autre chose comme ça, peut-être? Parce que lorsque à Perros-Y, ils ont fait un premier festival de bande dessinée, ils m'ont demandé de venir. Et j'ai dit, je viens si tous les dessinateurs invités font un concours de châteaux de sable.
Et vous avez eu gain de cause?
J'ai fait, absolument.
Ah bon.
Mais je dois dire que j'ai fait alors un chingouze dans quasiment la même attitude que le singe que j'avais fait. Mais tout s'est effondré à moitié. Ça n'allait plus du tout. J'avais perdu la main.
Effectivement. Voilà. Alors, vous le disiez, hein, vous avez fait une école d'art, en l'occurrence les arts appliqués. Vous en avez passé trois, hein, l'école Boulle, l'école Estienne et les arts appliqués reçus aux trois. Bon, c'est quand même... Il y a pire pour débuter dans la vie.
C'était mieux parce que les études littéraires ou mathématiques du lycée, c'était pas terrible.
Oui. Vous ennuyez un petit peu.
C'était vraiment... Enfin, à l'époque aussi, on se posait pas de problème. Il y avait les filières d'école technique et visiblement, j'étais pas fait pour faire des études...
Oui, mais visiblement, vous êtes même un petit peu ennuyé aussi aux arts appliqués, parce que là, dans le livre, il y a un dessin qui montre un peu votre travail sur la perspective. Et le correcteur, alors je sais pas ce qu'il sait, je sais pas si on se souvient de lui aujourd'hui, je sais pas s'il a marqué l'histoire des arts, mais vous reproche au passage votre fantaisie.
Oui, absolument.
Voilà, ce qui n'était pas un compliment mais qui peut faire sourire quand on voit ce que vous avez fait depuis, quoi, quand même. Hein.
Non, mais justement, parce que pour moi, le principe de dessiner des arcades éclairées par le soleil et les ombres portées de tout ça, c'était un truc de calcul, de prendre des règles et de tirer des traits. Et moi, j'ai improvisé ça, ça allait très bien. Et le gars me dit non, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça que ça se fait. Mais dessiner justement librement. Une ambiance où on dit, c'est évident, on a la lumière qui passe à travers les arcades, et c'est très bien comme ça, voilà.
Oui, mais qu'est-ce que vous avez appris, justement, dans cette école d'art appliqué? En quoi ça vous a été utile par la suite?
Écoutez, j'en sais rien, mais incontestablement, la photo que je publie dans le livre avec les gars de mon même atelier, on fait de la bande dessinée.
Il n'y a pas de section bande dessinée. Hein. Vous étiez dans la section tissu et papier peint.
Parce que c'est évident que la bande dessinée n'avait pas la parole.
Ouais.
Et j'étais aussi compagnon d'un autre dessinateur devenu fameux, c'est Moebius Jean Giraud, qui était assis à côté de moi.
Voilà. Donc
et les profs qui reconnaissaient son dessin en disant, mais Giraud, quel dommage qu'avec le talent que vous avez, vous ne fassiez que des choses pour les débiles mentaux.
Ah oui, quand même. Donc, c'était ce genre de vocabulaire.
C'était les débiles mentaux.
Alors, il se trouve que Jean Giraud, il est évidemment extrêmement présent aussi dans ce livre, en particulier à travers une photo. Alors, sur cette photo, c'est une photo de cow-boy.
Ouais.
Donc, c'est une photo d'un type avec un... Voilà, c'est vous. donc à cheval, hein, dans les plaines de l'Utah. Et cette photo, eh bien, elle fait penser à Jean Giraud, puisque c'est une photo qui va l'inspirer pour créer l'un de ses personnages les plus connus, le personnage de Blueberry. Donc Blueberry, c'est un petit peu vous.
Attention, ne me mettez pas dans la peau de Belmondo, quand même.
Non,
le Blueberry, c'était Belmondo, la gueule qui fait. Mais c'est simplement que quand je suis rentré des États-Unis, après avoir fait développer mes photos et tiré deux, trois trucs, je lui dis, Jean, viens voir, j'ai mes photos. Et il voit ça, il me dit, oh, mais c'est exactement ce que j'ai besoin pour mes pages de garde de mes premiers albums. Nous étions en 1965, 6. Et donc, il sortait ses premiers albums de Blueberry. Et tous les lecteurs qui connaissent un peu reconnaîtront, non pas moi, mais la photo du cavalier.
La photo du cavalier. Ça, c'est vraiment magique quand on arrive sur la page. C'est vrai que tout de suite, ça frappe tout de suite les esprits. Donc, vous êtes parti, effectivement, finalement, aux États-Unis en 1965. Et vous vous retrouvez aux États-Unis. Un autre grand copain à vous, c'est évidemment Pierre Christin. Alors lui aussi, hein, vous le connaissez depuis l'enfance. Vous êtes rencontrés dans des circonstances un peu dramatiques.
Un peu plus dramatiques, puisque donc c'était pendant les alertes aériennes. Il était voisin d'une maison à côté et il s'est réfugié dans les mêmes caves. Pendant les alertes, nous ne parlons pas de bombardement, puisqu'on a eu la chance de ne pas être bombardé, mais c'était la banlieue de Paris et quand même la gare de Charenton, etc., a morflé largement. Et nous étions totalement inconscients de ça. C'était pas dramatique. Et Pierre était devenu un copain. Venant après la libération, c'était des balades dans le bois de Vincennes, etc., en vélo et tout. Et on s'est retrouvés X fois dans la vie. Et surtout, on avait tout... Lui était déjà... Oui, parce que vous sautez l'épisode des 2 ans et demi de service militaire, oui. Merci, oui. Que j'ai, moi, accompli.
Voilà.
Et que Christin n'a pas eu, parce qu'il faisait des études supérieures.
Oui.
Et tant mieux pour lui.
Et donc, vous vous êtes retrouvé en Amérique.
Et on s'est retrouvé.
Lui, il était prof de français à Salt Lake City, dans l'Utah. Et vous vous êtes donc retrouvé à ce moment-là aux États-Unis. Et c'est des États-Unis que vous avez envoyé des histoires à pilote, fallait payer le billet d'avion en retour, c'est pour ça.
Exactement, parce que là,
c'est ça le moteur.
À l'époque, on pouvait partir avec un one-way et payer plus tard, quand j'avais un soi-disant visa de travail aux États-Unis, par l'intermédiaire de JG, autre très grand dessinateur de bande dessinée, qui a été un peu le faiseur de Giro et moi aussi, mais moins dans le point de vue de qualité. Mais JG m'avait dit, mais si tu pars aux États-Unis pendant un an, etc., il faut que tu puisses travailler. Et alors, j'ai un ami qui a une usine de charpente métallique à Houston, au Texas. Je vais lui écrire. Et il l'a fait. Et le gars m'a envoyé un papier. Je ne sais pas trop quoi. Sauf que, évidemment, ce papier n'était valable que à cet endroit-là.
Ah oui.
Et une fois à San Francisco, où je voulais travailler dans une petite agence de pub qui avait trouvé que ce que je dessinais, c'était amusant, etc., et les gars me disent, ben, mettez-vous d'accord avec les autorités et revenez nous voir, etc. Et les gars des autorités me disent, mais qu'est-ce que vous foutez à San Francisco? Vous devriez être à Houston depuis 6 mois.
D'accord. Donc, alors, effectivement, c'était une autre époque.
C'était légèrement illégal.
Voilà.
Quand même.
Voilà. Et donc, pour payer votre billet retour, vous proposez des histoires à pilote. Il y a le rhum et le ponche, par exemple. J'invite.
Le rhum du ponche.
Le rhum du ponche, voilà, que j'invite les lecteurs à découvrir dans le livre. Et c'est Pilote, dirigé à l'époque par Goscinny, qui publiera en 67 la première aventure de Valérian. On en parle dans un instant.
Oui. I gotta find myself, gonna find him now. I gotta be a man, I gotta find him now. I gotta be a man, I gotta be a man. They wanna take me down, wanna see me grow. I gotta be a man, I gotta find him now. I gotta be a man, I gotta be the man. I gotta find myself, gonna find him now. I gotta be a man, I gotta find him now. I gotta be a man. When I come to town for the last time, pull up in a fast car for the first time, I'm gonna say goodbye. You didn't see me cry. I got a million on my soul, you're building on me on my own. They put a bounty on my soul. Won't you leave me alone? Oh, leave me alone.
For the first time, I'm gonna say goodbye. He didn't see me cry. I got a million on my soul. Go bit an army on my own. They put a bounty on my soul.
A Million on My Soul, Alexia, un extrait de la bande originale du film Valérian et la Cité des Mille Planètes de Luc Besson, film sorti en 2017, 50 ans après la naissance de Valérian et Laureline, ou plus exactement de Valérian, agent spatio-temporel dans le journal Pilote. Il y a un avant et un après pour vous, Jean-Claude Mézières. Hein.
Oui.
C'est une série dont chacun s'accorde à dire aujourd'hui qu'elle a tout simplement révolutionné la science-fiction. Mais justement, c'est quand même une surprise aussi pour ceux qui ne vous connaîtraient pas avant, parce que on vient de nous expliquer que votre rêve c'était les États-Unis, que c'était le western, et la grande série que vous créez avec Christin. C'est pas un western, c'est de la SF.
Ben oui, justement, c'est que peut-être qu'il y avait déjà l'encombrement dans le western. Qui n'a pas dessiné une histoire de cow-boy dans sa vie, dans les années 50 à 2000? C'est-à-dire que tout dessinateur a dessiné du western. Et c'était le sujet le plus éculé qui existe, avec des réussites fabuleuses et des nanars effroyables. Et Pierre Cressin, qui, alors mettons bien les choses en place, n'était pas du tout ni scénariste, ni il était intéressé par la bande dessinée, parce que on était copains, parce qu'il savait, il était copain avec Giraud aussi dans nos époques de lycée, etc., que la bande dessinée c'était une matière formidable. Mais lui était une graine d'intellectuel qu'il est devenu, et avec toutes les qualités de travailler pour les universités, des choses comme ça. Et c'est moi qui l'ai tiré par les bretelles en disant « Je peux illustrer des scénarios très bien, je peux en écrire des petits très courts, mais pas des longues histoires. » Or, le but en bande dessinée, c'est de faire quand même l'album qui commençait à se profiler.
Oui, mais vous auriez pu choisir des scénaristes déjà installés au journal Pilote.
Mais non, ils étaient pas bons.
Ah bon?
Non, s'ils étaient libres, c'est qu'ils étaient pas bons.
D'accord. Ah, c'est intéressant, effectivement. Mais alors, vous étiez, Christin et vous, déjà des lecteurs de science-fiction?
Oui. Alors, justement, la lecture de science-fiction a été, pour tous les gars de notre génération, une découverte ou bien formidable, ou bien un rejet absolu, selon le caractère. Et Giraud, Christin et d'autres, mais très peu d'autres, dans la classe aux arts appliqués, par exemple, étaient intéressés par la science-fiction, et qui était le moment des grands créateurs des années 50, qui sortaient... Philippe K. Dick et plein d'autres noms, tout ça. Et ça, on lisait beaucoup de ça. Et c'était une ouverture qui, moi, au début, ne me suggérait aucun dessin.
Oui, alors justement, c'est la question que j'allais vous poser. Comment est-ce qu'on dessine le futur?
C'est un problème que je me suis posé largement.
J'imagine, oui.
Principalement en dessinant la première page la première histoire que Pierre se met à écrire, qui était donc Valérian contre les mauvais rêves. Et il me dit, première page, grande image de Galaxy City, capitale de l'Empire terrien, Allez, vas-y, marche, coco.
Il vous a donné aucune autre indication.
Mais qu'est-ce qu'il va me dire que c'était grand et gigantesque?
Voilà. Alors, elle est dans le livre, évidemment, oui, Galaxy City. Oui. Alors, c'est le pouvoir de l'imagination qui s'est exprimé comme ça à travers votre crayon.
Disons que j'ai sorti ça très péniblement. Et c'est là où je suis intervenu dans le scénario pour dire, écoute, on va pas faire de la science-fiction tout de suite, hein. On va faire un saut dans le passé et dans le Moyen Âge, parce que je peux pas dessiner comme ça.
Avec au passage quelques chevaux, ce qui faisait un petit peu western aussi.
Exactement. On a repris un peu les grands mythes de la bande dessinée, qui étaient les influences de Peyot, de Jean et Père Louis, etc., qui étaient des bases que je connaissais bien. Et peu à peu, la première histoire, la deuxième histoire, on a fait une histoire avec New York sous les eaux. Alors New York, je connaissais bien, mais sous les eaux et avec toutes des cataclysmes. Et justement l'autre jour, dans les actualités montrant New York sous les eaux, mes copains m'ont dit « Bah tiens, regarde, la cité des eaux noires, tu as encore une prédiction que tu avais faite. »
C'est ça le pouvoir de la science-fiction. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de mettre en couverture du livre Point Central?
Parce que c'est une jolie peinture. Alors là, c'est une peinture à la gouache, qui est une illustration peinte, et ça reflète bien quand même la grande liberté que la science-fiction permet, puisque j'ai pas à copier un document, il n'existe pas. Donc, et de trouver un truc qui exprime la lumière, le vide de l'espace, et ça peut être aussi des échanges de civilisations, puisque c'est pas une civilisation, c'est toutes les civilisations qui se retrouvent sur ce point central.
Mais il y a quand même des inspirations quand même qui guident votre crayon.
Il y a eu des grands illustrateurs. Mais en bande dessinée, et il faut dire que dans le journal pilote, personne ne dessinait de la science-fiction. Et en tant que dessinateur, parlons européen, il y avait à l'époque Robert Gillon, qui travaillait pour le journal Vaillant, mais qui faisait une science-fiction qui est quand même très terrienne, puisque ça se passait dans des personnages humains qui rapetissaient dans un jardin magique. Je ne sais pas si c'était le jardin qui était très grand et eux très petits, mais il y avait toujours cette différence. Et il y avait Robert Gillon, il y avait Forrest, qui avait fait sa première Barbarella, qui était interdite au public, puisque tante Yvonne...
Donc Madame de Gaulle l'appréciait moyennement.
Interdisait que cet album pornographique soit montré en vitrine des librairies. Le libraire avait le droit de le vendre sous le comptoir.
C'était une autre époque, une nouvelle fois.
Une nouvelle époque. Mais par contre, moi, en tant que lecteur et dessinateur, j'avais apprécié le travail de Forrest. Donc, ça avait été quelques influences. Mais Forrest s'est jamais lancé dans une création très spatiale. Hein. C'est beaucoup plus des rapports humains et extraterrestres qui sont...
Mais quand Christin, dans son scénario, parle d'un vaisseau spatial, mais aussi d'une créature extraterrestre quelconque, je sais pas, un glapumcien, un schnierfer ou un Shingutz, il était très précis dans les détails.
Non,
il vous laissait une liberté totale.
Mais il va pas me dire qu'est-ce qu'il faut que je dessine, sinon
surtout
il le dessine
même. Ça, c'est vous.
Bien sûr, c'est là où, justement, psychologiquement, ce qui m'intéressait, c'était de savoir comment pensait cette bestiole et ce qui allait se passer, donc l'interaction avec les personnages et éventuellement leur dialogue.
Donc leur caractère, leur interaction qui vous
mais
indique...
Mais le reste, le nombre de plumes dans le cul de l'extraterrestre...
Alors, Christin, toujours lui, dites-vous que vous êtes un perfectionniste du genre jamais content, que vous recommencez vos planches indéfiniment.
Mais je suis le premier critique.
Oui, mais alors qu'est-ce qui vous fait valider une case? Qu'est-ce qui vous permet de dire « Ah, c'est bon, là, c'est bon, ça y est, j'arrête, je passe à la case suivante. »
C'est moi.
Oui.
C'est-à-dire, à un moment, je dis « ça va pas, je recommence. » Et j'ai recommencé des fois, des cases, trois fois, quatre fois. Et d'autres fois, c'est un bonjour, allez, ça va, c'est bien.
Mais le critère, c'est quoi? C'est l'efficacité de la case dans la narration?
Mais
c'est le côté
donc,
spectaculaire?
C'est un trait qui, éventuellement... Vous savez... faut d'abord parler de quoi il s'agit comme recommencement. Ou c'est la mise en scène de la situation qui est Je trouve finalement, j'ai pas mis ma caméra assez haut pour qu'on voit l'ensemble du paysage, ou au contraire que la suite des images, la narration graphique, c'est ça qui me passionne, c'est la narration graphique, c'est pas le dessin lui-même, c'est la manière de que ça montrer que c'est d'une logique absolue.
Oui.
On tourne les pages, on continue, on se pose pas la question, on comprend tout ce qu'il y a. Alors que des fois, vous dites mais votre dessin là. Qui parle, qui répond à ça? Ah ben non, c'est l'autre personne qui est là-bas. Mais...
Donc la clarté pour vous, c'était vraiment quelque chose de capital.
Une lisibilité, mais qui est traduite par les accessoires que vous vous donnez.
Oui, donc c'est vraiment un travail de metteur en scène que le travail du dessinateur
très
BD.
Très proche, à part que je n'ai pas des ouvriers ultra qualifiés à côté de moi.
Oui, et donc vous faites tout seul.
Et c'est moi qui fais tout seul, je rabote et j'installe l'électricité.
Bon, vous avez travaillé qu'avec une coloriste et pas n'importe laquelle.
Oui, alors Evelyne Tranley, qui est ma sœur, au début je faisais les couleurs. Les couleurs étaient préparées sur bleu, ce qu'ils appellent bleu, c'est-à-dire un tirage réduit au format de parution de la page qui est en général beaucoup plus grande. La page noir et blanc est beaucoup plus grande et le tirage est réduit et avec un film transparent qui recouvre le trait qui va apparaître en dessous, sur le papier. Donc, on peint sur le papier, sans, et le trait noir vient repréciser tout le dessin et les ombres. Ça, c'était l'ancienne époque de l'imprimerie. Maintenant, tout est
l'ordinateur, c'est pas du tout la même chose.
Et c'est dégueulasse.
Bon, c'est votre avis. Ça ne plaira pas à tout le monde.
Je le partage.
Et vous avez le droit de le partager avec nous. Alors, on parlait de mise en scène à l'instant, ce qui nous amène évidemment à la question du cinéma. Vous l'avez peut-être fait à votre corps défendant, finalement, ce métier de metteur en scène, parce que beaucoup ont dit que... Bah, Hollywood, vous avez un petit peu pillé.
Hein. Ah oui, pour le cinéma, c'est tout à fait. Oui, j'avais écrit très gentiment à George Lucas.
Voilà, on pense à Star Wars notamment.
En trouvant quand même qu'il y avait. Je me suis amusé à faire un petit comparatif de 7-8 séquences trouvées dans les tout premiers albums, 10 ans avant Star Wars. Et où, bah tiens, même chose, Laureline, elle est habillée pareil que la princesse Leia. Valérian est pris dans un bloc de carbonite pareil que Han Solo dans l'Empire, je sais plus lequel. Je les ai vus, mais après je les ai oubliés.
Oui, il vous a pas répondu.
Il a perdu mon adresse. C'est dommage.
Alors parmi les albums de Valérian, il y en a un qui s'appelle Les Cercles du Pouvoir, et c'est quand vous travaillez dessus qu'un autre réalisateur européen, celui-ci, Luc Besson, vous contacte et vous propose de travailler sur les décors de son film, Le Cinquième Élément. Et le mot qu'on puisse dire, c'est que vous avez apporté des choses au film, les fameux taxis volants, je le disais en introduction. C'est vous, ils viennent même d'un projet de Valérian.
Oui, c'est-à-dire que là, j'étais au début, Luc m'a contacté en me faisant lire son scénario qui s'appelait Zaltman Bleros. Et qui était donc l'histoire d'un ouvrier dans la banlieue new-yorkaise qui tombait amoureux d'un être de l'espace, etc. Mais il était ouvrier dans une usine de fusées. Et bon, j'ai fait des dessins qui représentaient cette usine de fusées en disant « ça peut être gigantesque, extraordinaire hein. ». Et puis... patatras, la production s'arrête, comme beaucoup de films qui ont existé et auxquels j'ai travaillé, la production s'arrête, et on me dit, viens plus travailler, c'est pas la peine, puisque j'ai travaillé toutes les semaines dans un studio de dessin, on me dit, c'est plus la peine, viens pas, il est parti à New York faire un autre film, et il fait Léon. Avec la petite Nathalie Portman. Voilà.
Et Léon marche très fort.
Léon casse la baraque.
Voilà.
Et les producteurs américains disent green light, on vous file l'argent,
votre film.
Et il redémarre. Et moi, pendant l'arrêt de tout ça, qui était un arrêt de plus de 6 mois, j'ai continué à faire ma bande dessinée. Et ma bande dessinée, Pierre Christin avait écrit dans le scénario Valérian Lorline tombe nez à nez avec un chauffeur de taxi d'un chauffeur de taxi volant plus pourri que les taxis du Bronx.
Oui, ce qui n'est pas peu dire.
Et donc j'avais dessiné ces premiers taxis dans mon histoire. D'ailleurs, c'est la première page de l'album quasiment. Et dans les décors que j'avais repris pour Luc Besson, j'avais évidemment mis des petits taxis volants comme ça. Ah, il m'avait dit, ils sont marrants tes petits taxis, etc. Et puis donc, patatras, tout s'arrête. Mais je lui envoie à New York un album de Les Cercles du Pouvoir. Et au moment où lui reçoit le feu vert de relancer le projet.
Ouais. Et ben il a intégré les taxis à son scénario.
Il a vu la couverture avec les taxis, j'ai dit c'est quand même pas une mauvaise idée. Et il a tout changé son scénario et tout, le personnage a évolué et il est devenu chauffeur de taxi volant.
On a de la chance. Quand ils te lâchent au bout d'un kilomètre, c'est qu'ils ont renoncé. Bon, ça doit être 2 kilomètres. Attention.
Excuse-moi, je ne parle que deux langues, le terrien et l'argot-terrien.
Et c'est le fichier.
Je t'assure que d'habitude, j'aime beaucoup faire la conversation, mais si tu voulais bien la fermer 5 minutes...
Ça donne rien. Il a un scan-bloqueur.
Monsieur est donc un voleur de voiture. Bousille-le.
Je sais pas ce que t'as fait pour les agacer à ce point. Ils sont vraiment très agacés. Attention!
Vous auriez aimé, Jean-Claude Mézières, être réalisateur, être metteur en scène de cinéma?
Certainement, j'ai même fait des petits films, etc. Mais quand on voit et quand on expérimente ce que c'est que de travailler dans le cinéma, dans la construction des décors, les problèmes d'argent, alors que là, avec ma feuille de dessin, ma feuille de papier à dessin, ma petite bouteille de Chine, une plume et un pinceau, on me fout une paix royale et je m'offre absolument tous les budgets que je veux. C'est beaucoup mieux et c'est beaucoup plus simple.
Avant de se quitter, Jean-Claude Mézières, je voudrais que vous nous décriviez, que vous commentiez pour nous 2 dessins un petit peu différents des autres et qui figurent justement dans ce livre, L'Art de Mézières, paru, je le rappelle, aux éditions d'Argo. Cette double page là qui est devant nous ici en studio, c'est un dessin pour Lady Polaris, hein, l'album que vous avez signé avec Pierre Christin. Est-ce que vous pouvez nous décrire cette double page et nous expliquer comment vous y avez réfléchi?
Oui, c'est-à-dire que c'est d'abord, c'est la couverture, et c'est un dessin que j'aime bien, mais toute l'histoire est une enquête que nous avons vraiment fait dans tous les ports de l'Europe, etc., avec, en bidonnant évidemment nos informations et en inventant une histoire de bateau coulé, et avec un personnage féminin. Et je veux dire, c'était pour moi, je venais de dessiner 4 albums, Métro Châtelet, Brooklyn Station, Les Foudres d'Ipsis, et le dernier qui s'appelle, mon Dieu, je ne sais plus, mais enfin bon, bref, 4 albums de suite qui se tenaient, et ça me faisait plaisir de faire un break total, de repartir pour d'autres projets cinéma, etc., et de faire un boulot qui était du reportage, des croquis que j'ai fait un peu sur place. Je ne suis pas un grand dessinateur de croquis, surtout sur les quais de Hambourg par moins 20.
Oui,
-20 degrés, c'est pas terrible.
C'est pas votre truc, oui.
Les aquarelles se figent dans la glace. Mais on peut faire des photos et c'est...
Ah, c'est sur photo que vous avez travaillé pour...
Oui, mais il n'y a pas de photo d'elle comme ça. Y a
non,
aucune.
Forcément.
Ça, c'est complètement un ensemble de trucs.
Elle est devant le bastingage. Il y a l'échelle, la bouée avec le nom du bateau,
les
Lady Polaris.
Ce sont les symboles du bateau qu'on trouve sur des photos. Mais le reste, l'éclairage, la nuit, etc., je l'ai complètement inventé. Et c'est ma foi une image que j'aime bien. Et,
oui, ben moi aussi, c'est pour ça que vous la commentiez. Et puis il y a une dernière image, alors qui est très étonnante. Enfin, parce que même Christin a été étonné de la trouver dans la loi, puisque c'est lui, je l'ai pas dit, qui signe la préface. Et c'est un autoportrait. Donc, que vous signez, Jean-Claude Mézières.
Que je signe, mais dans des circonstances un peu, c'est un autre portrait réaliste.
Voilà. Disons, ben oui, c'est pour ça qu'il est singulier
parce
aussi.
Que je suis pas un dessinateur non. réaliste, je suis un semi-humoriste. Pendant mes 28 mois et demi de service militaire, et c'était juste avant de partir en Algérie, où chez mes parents, j'étais dans un dimanche dans ma chambre en train de dessinailler, et puis je me suis vu dans la glace et j'ai fait ça et je me suis pris pour un artiste avec un grand A.
Mais vous êtes un artiste avec un grand A, Jean-Claude Mézières, avec la carrière que vous avez eue, comment
dessinée,
vous pouvez
c'est
en douter.
C'est plus confortable.
Bon, en tout cas, il faut regarder hein, effectivement cet autoportrait que Christin qui commente en plus. Il a fait des commentaires de certaines pages. Portrait d'une grande violence avec quelque chose de rimbaldien.
Oui, mais ça, c'est le talent de Christin de vendre de ce qu'il veut. Et moi, je trouve que c'est un dessin qui est bizarre. Effectivement, c'est un style que je n'ai absolument pas développé.
Voilà, il y a plein de surprises hein, comme ça à l'intérieur du livre.
C'est bien de travailler dans différents registres.
Voilà, et on retrouve effectivement dans le livre donc ces surprises. Il y a aussi évidemment des planches absolument iconiques, en particulier de Valérian et Laureline, mais aussi donc quelques-uns de vos grands travaux, si j'ose dire, et de vos petits travaux de jeunesse aussi.
Pour le cinéma, évidemment.
Aussi, évidemment. Donc c'est vraiment très très complet. Merci beaucoup Jean-Claude Mézières.
Merci aussi.
D'être passé nous voir. L'art de Mézières est paru, je le rappelle, aux éditions d'Argot. Et bonjour à vous, Marjorie Bertin.
Bonjour Jean-François.
Merci pour le regard, je me sentais sale ce soir. Marchant un peu dans la nuit, loin de la foule et du bruit. Merci pour ces quelques pas, je m'ennuyais avec moi.
À part moi, à part vous, pas l'ombre d'un rendez-vous.
Alors, on a tous reconnu une icône, hein, une icône, il n'y a pas d'autre mot de la chanson française, une idole des jeunes même, hein, comme chantait son premier mari, Johnny Hallyday. Sylvie Vartan, figurez-vous, fête ses 60 ans de carrière avec son 66e album, il s'intitule Marjorie, Merci pour le regard.
Oui, il y a des chiffres vertigineux, elle rêvait d'un nouvel album studio depuis une dizaine d'années. C'est chose faite avec ce disque aux orchestrations soignées, que la chanteuse, effectivement à la voix inimitable, veut comme une confidence à son public.
On entend très bien ma voix parce que je l'ai voulu ainsi et que les textes s'y prêtent. Les textes sont forts et très originaux, très poétiques. Vraiment, j'ai rencontré des auteurs formidables qui ont su parler de moi en s'imaginant qui j'étais. Et ma foi, ils ont touché dans le mille parce que franchement, j'aurais pu écrire tous les mots que je chante. Je les ai ressentis, ils font partie de moi, ils me représentent.
Alors, des textes qui parlent de sa vie, d'amour, de nostalgie, d'exil, bien sûr.
Bah oui, mais d'exil, puisque c'est vrai que pour beaucoup, Vartan, c'est aussi la Bulgarie, hein, son pays natal qu'elle a dû quitter enfant.
Et elle l'évoque avec une dernière danse, un beau tcha-tcha un peu langoureux, et aussi sur le bleu de la mer Noire, une chanson écrite par la chanteuse Clarica, qui est à moitié hongroise comme Sylvie Vartan, une chanson qui parle du courage que réclame l'exil.
Je rejoindrai l'estuaire, je braverai les sanglots du ciel et ses colères. J'aurai un peu peur, un peu chaud. Oui, il pleuvra des coups et je tiendrai la barre parce que je sais qu'au bout brillera le bleu de la mer Noire.
Alors, beaucoup de piano-voix sur les 14 chansons de Merci pour le regard, ce qui crée effectivement une intimité chaleureuse et une coloration de jazz sur le magnifique et un brin sensuel tout bas, tout bas.
On dit parfois tout bas, que tous nos amours d'ici bas sont des combats perdus d'avance, qu'on passe de Caribe en Scylla.
avec une trompette très feutrée sur ce titre, Marjorie.
Mais oui, Sylvie Vartan y tenait et elle me racontait que c'est aussi un hommage à son frère, le compositeur et chef d'orchestre Eddie Vartan, qui avait lancé sa carrière quand elle avait 16 ans à peine en lui proposant de remplacer une chanteuse pour un duo.
J'adore ce son de trompette avec lequel j'ai grandi, puisque mon frère avait troqué son corps d'harmonie pour justement une trompette. Et il faisait ses gammes et ses exercices tous les jours. Il jouait dans un club de jazz et il m'a initié au jazz. Il m'a fait connaître tous les grands musiciens de jazz en m'emmenant au spectacle de l'Olympia. Je les ai tous vus, de Miles Davis qui était absolument sublime. Et justement, cette trompette de velours, ce son extraordinaire. Cette trompette me parle et me transporte dans mes jeunes années la trompette d'Eddie, en fait, elle me rappelle mon frère.
Alors, merci pour le regard. C'est donc aussi la jeunesse de Sylvie Vartan, évoquée avec nostalgie sur Une dernière danse, un tango entêtant, et sur Ma tendre enfance, écrite par un grand ami de Sylvie Vartan, Dave, et La distance, bien sûr, avec Les vents contraires, chargée de cette atmosphère californienne de Los Angeles que vous devez bien aimer, Jean-François.
Oui, enfin, je ne connais pas, mais ça me donne envie.
Où vit souvent cette grande voyageuse.
Et dans les soirs d'hiver, les tempêtes, les vents contraires, moi je ferme les yeux et je pense à toi. Et dans les soirs d'hiver, les tempêtes, les vents contraires, moi je ferme les yeux et je pense à toi.
On connaît aussi sur ce disque, Marjorie, la grande amoureuse qu'a toujours été Sylvie.
Mais oui, justement, elle chante beaucoup l'amour sur cet album et sous toutes ses formes, après une rupture, en retrouvailles, en attente. Donc je vais forcément demander si elle est romantique.
J'ai une certaine mélancolie, que j'exprime forcément, et je crois que ma voix l'exprime aussi. J'ai besoin de solitude, j'ai besoin de me retrouver, j'ai besoin de m'isoler. Je suis romantique, évidemment, l'amour, c'est ce qu'il y a de plus important au monde. D'ailleurs, elle a été chantée sur toutes les coutures, par tout le monde, par les plus grands. Tout le monde chante l'amour. C'est inépuisable parce qu'il y a des milliers de façons de parler de l'amour.
Et l'amour, lorsqu'il a été sincère et intense, est d'après Sylvie Vartan plus fort que la mort. On peut le maintenir, du moins avec des souvenirs, et elle le chante sur « J'emporterai ».
J'emporterai le matin, avec ton premier réveil, sur une plage de sable fin, tu sortiras du sommeil. J'emporterai sur ma peau, le parfum de ta présence, en souvenir le cadeau, d'une prochaine fois qui s'élance, et tu me réchaufferas. De tous tes baisers si froids, je reviendrai à la vie. Dans la pâleur de ton lit, j'emporterai nos caresses. Dans leur manteau de tristesse, le superflu, les regrets d'une prière non exaucée.
Une confidence élégante, le disque intime et cinématographique d'une grande dame, émouvante, pas du tout figée dans le passé, au contraire. D'ailleurs, pour ce disque, elle s'est aussi entourée de jeunes chanteuses pour écrire les chansons, Clarica, Clara Luciani, ou encore la grande Sophie qui a écrit Du côté de ma peine.
Là, sous mon chapeau, sous mon front, des armées en désarmées qui retiennent toutes mes blés. Des coupures, il y a ce côté sombre sous ma chevelure blanche.
Merci pour le regard. Le nouvel album de Sylvie Vartan à retrouver également au Théâtre de Arcet les 11 et 12 octobre et le 20 novembre, salle Playel à Paris avant une tournée en France, en Suisse et en Belgique. Merci Marjorie. Dans un instant, le journal sur RFI. On se retrouve demain avec Marie Dariussec qui nous parle d'insomnie, de sommeil, de littérature et de bien d'autres choses dans son nouveau livre, un livre très singulier intitulé tout simplement Pas dormir. C'est chez POL et vous m'en direz des nouvelles.
Pour nous faire partager vos bonheurs culturels et artistiques, écrivez-nous à vmdn@rfi.fr ou sur les réseaux sociaux.
RFI.